Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers.
Vous écoutez CKRL.
Le grain de sable d'attaque, Québec, 10e année.
Et passe les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Bonjour à tous et bienvenue au Grain de sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne Attaque Québec. Donc, vous avez entendu notre nouvelle introduction, j'espère qu'elle vous apprécie. Aujourd'hui, on va vous parler de nouveautés concernant le recyclage à Québec et au Québec avec Colin Jacob, qui est spécialisé sur la question et qui est spécialisé sur la question des déchets et du recyclage et qui est aussi actif dans le comité zéro déchet des Amis de la Terre. On va également, en deuxième partie d'émission, parler de paradis fiscaux avec Aline Tremblay du Réseau pour la justice fiscale. Donc, on va commencer avec une chanson de Tout le monde, de Louis-Jean Cormier, qui s'appelle « Tout le monde en même temps ».
Mettre le feu. faisait marche arrière pour reprendre notre élan. Est-ce que l'on éviterait le cratère? Mais où sont les règles du jeu qu'on y mette le feu? Bonjour solitaire, tout le monde en même temps. Ah, ah, et si tout le monde en même temps, la quête Jupiter, on serait bien moins terre à terre. Et si tout le monde en même temps, se serrait la main, il ferait beau demain matin. Et si tout le monde en même temps, se lâchait le nombril, ça effacerait bien des cils. Si tu me prenais dans tes bras.
C'était Louis-Jean Cormier avec Tout le monde en même temps. On est maintenant avec Colin Jacob Vaillancourt, qui est étudiant en génie civil à l'Université Laval et qui est aussi membre du comité Zéro déchet des Amis de la Terre de Québec. Et il vient nous parler aujourd'hui de la campagne Opération Vert Vert. Vert comme le vert d'un verre de vin, vert comme la couleur des arbres. Donc, Opération Vert Vert, petit jeu de mots, qu'ils ont lancé pour à Grandeur du Québec pour demander à la SAQ de recycler les bouteilles de verre. Bonjour Colin.
Bonjour.
Et tu peux nous expliquer un peu l'objectif de cette campagne-là?
Oui, bien sûr. L'opération Vert Vert, c'est quelque chose qui s'est déroulé le 28 octobre dernier à la grandeur de la province du Québec. Il y a eu des points de presse qui se sont tenus ici à Québec, mais aussi à Montréal, Sherbrooke et Drummondville. Les points de presse avaient toujours lieu en face d'une succursale de la SAQ. Pourquoi? Eh bien, l'opération vise à mettre un petit peu de pression sur la SAQ pour les encourager à récupérer les bouteilles de vin qu'ils vendent, en fait, qu'ils mettent en circulation sur le marché. Pourquoi? C'est parce que nous, on est bien au courant de la problématique du recyclage du verre ici au Québec. Et puis, on croit que une des solutions passe par la consigne des bouteilles de vin. C'est quelque chose que la SAQ refuse toujours de faire, donc on s'est dit qu'en mettant un petit peu de pression sur la SAQ et en incitant les citoyens à rapporter leur bouteille de vin vide aux succursales de la SAQ, peut-être que ça allait faire jaser le milieu et puis faire bouger les choses.
Et pourquoi les bouteilles de vin en particulier? Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut recycler aussi, qui ont besoin d'être recyclées et qui ne le sont pas.
Oui, mais la campagne se concentre sur le verre en particulier. Les bouteilles de bière sont déjà consignées, donc ça va bien de ce côté-là. Les bouteilles de vin ne le sont pas. Et puis, 80% du verre qui se retrouve dans le bac bleu provient de la SAQ. Donc, on s'est dit que ça serait... Oui, les bouteilles de vin, c'est définitivement une grosse proportion du verre. Donc, on s'est dit que ça serait un bon point de départ.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec le verre recyclé?
C'est une très bonne question. On peut faire une multitude de choses. Il y a plusieurs moyens de le valoriser. Et puis, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le domaine à l'heure actuelle. Par contre, si on suit la hiérarchie des trois RV, le réemploi et puis le recyclage vient toujours avant la valorisation. Donc, ce qui est préférable, en fait, au point de vue énergétique puis au point de vue économie des ressources, c'est de prendre le verre et puis d'en refaire du verre. Par exemple, prendre les bouteilles, qu'elles soient concassées, fondues à nouveau, et on refait des bouteilles avec ce verre-là.
C'est ce qui est le plus écologique.
C'est probablement ce qui est le plus écologique, oui. Si c'est pas possible, ben là, on peut se tourner vers d'autres avenues qui est l'incorporation du verre dans différents matériaux de construction, par exemple, ou l'utilisation du verre comme matériel de remblai, ou même comme l'effiltrant dans les sites d'enfouissement. C'est l'utilisation principale du verre à l'heure actuelle. Par contre, comme je disais, si on suit la hiérarchie, c'est pas une utilisation optimisée. C'est toujours préférable de se concentrer sur le recyclage en premier lieu lorsque c'est possible de le faire.
Donc, la campagne s'adresse spécifiquement à la SAQ. Vous, dans le fond, ce que vous demandez à la SAQ, c'est quoi? Les amis de la terre.
On demande à la SAQ d'instaurer la consigne sur les bouteilles de vin qu'ils vendent. Donc, on peut parler à peu près 20 cents par bouteille de vin ou un autre montant, peu importe. Reste à voir s'ils vont vouloir nous entendre. Probablement pas. Par contre, en parallèle au point de presse qu'on a effectué avec l'opération Vert-Vert, on a aussi envoyé des bouteilles à tous les députés de l'Assemblée nationale. C'était des bouteilles vides, juste pour tirer ça au clair. Dans les bouteilles, il y avait un message dans lequel on expliquait pourquoi on entreprenait cette action-là. On offrait un argumentaire en faveur de l'instauration d'une consigne sur les bouteilles de vin et on demandait aux politiciens d'en débattre en Assemblée nationale. Parce qu'on croit que s'il y a un changement qui va devoir s'effectuer, ça va venir du milieu politique, avant que ce soit la SAQ qui prenne la décision. Le fait qu'on soit en face de la SAQ, c'était surtout symbolique, mais on s'attend à quelque chose du côté politique. Par le fait même, on essaie aussi de créer un mouvement citoyen. Donc, lors des points de presse, on expliquait qu'on incitait à partir de maintenant les gens, tous les consommateurs de la SAQ à rapporter leur bouteille de vin vide à la SAQ. Et puis, ce faisant, ils pouvaient prendre une petite vidéo d'eux avec leur bouteille de vin vide en face de la succursale. Et puis, par la suite, ils entrent à l'intérieur, ils laissent la bouteille sur le comptoir en remerciant le préposé ou l'employé. Et puis, c'est tout. Rien de plus compliqué. Par la suite, la vidéo peut être partagée sur le site Facebook de Opération Vert-Vert. Et puis, c'est ça. L'idée, c'est de créer une espèce de prise de conscience citoyenne et puis de voir si il va y avoir un effet domino à partir de ce moment-là.
Quand un citoyen veut faire son recyclage en bonne et due forme, parce qu'on en entend parler depuis longtemps du recyclage, mais finalement, souvent les gens savent plus vraiment ce qui se recycle, puisqu'ils se recyclent plus, même s'il y a des guides de tri qui sont faits, parce qu'il y a, comme je prends l'exemple du plastique 6, il y a eu à un moment donné une usine en Ontario qui recyclait le plastique 6. Donc, mm-hmm. On pouvait, dépendamment de la ville où on était au Québec, on pouvait recycler le plastique 6, il était envoyé là.
Oui.
Puis là, il paraît que cette usine-là a fermé parce que c'était plus rentable, parce que c'était les Chinois qui rachetaient ce plastique-là pour le recycler, mais là, ils ont décidé de ne plus le faire. Donc, là, on a entendu dire que le plastique 6 ne se recyclait plus, donc ça n'allait plus le mettre au recyclage. Puis à un moment donné, ah non, on peut le refaire parce que là, on a une nouvelle norme qui va être introduite à Québec, mettons, récemment, là, j'ai vu un article qui disait que Québec se dote d'un outil pour recycler le plastique 6.
Oui.
Ça change souvent. C'est difficile pour les gens de comprendre aussi pourquoi cette chose-là se recycle et cette chose-là ne se recycle pas. Dans le fond, ma question, j'en aurai plusieurs. J'aimerais ça savoir où on en est au niveau de la gestion des matières résiduelles puis du recyclage des déchets au Québec. Il y avait, je sais que le Parti libéral avait parlé de remodifier la politique de gestion des matières résiduelles au Québec.
Mm-hmm.
Après ça, le Parti québécois a repris ça, puis ils en ont reparlé aussi. Puis après ça, c'est tombé dans l'oubli. On n'en a plus entendu parler.
En fait, les plans de gestion de matières résiduelles, c'est une obligation que les MRC les MRC doivent se plier aux obligations de ces plans-là. Et puis, par règlement, chaque MRC doit se doter d'un plan et le réviser aux 5 ans. Oui, c'est tout à fait normal que ces plans-là vont être révisés. Et puis, ils doivent être en accord avec la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui est à un échelon supérieur, si vous voulez. Et puis ça, c'est une politique qui est assortie de plans d'action quinquennales. Et puis, bref, il y a une foule de documents.
Puis là, quand les élections arrivent, ben là, ça tombe dans l'oubli, puis on recommence. C'est tout ça qui se passe?
Plus ou moins, si c'est par règlement, tous les partis doivent se plier à la loi et au règlement, de même que toutes les municipalités. Donc, il va toujours avoir un processus d'amélioration continue puis un processus consultatif. Par contre, oui, il peut y avoir du recul avec les changements de gouvernement ou ça peut être bénéfique. Reste à voir, par exemple, je sais que le gouvernement libéral d'il y a quelques années avait promis une hausse de la consigne, pour revenir au sujet de la consigne.
Oui.
Parce que, bon, depuis les années 80, la consigne demeure à 5 cents pour les petits contenants et puis ça ne correspond plus du tout à notre réalité économique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une majoration du taux de la consigne? Donc, ils avaient promis de revoir ça. Par la suite, le Parti québécois est venu au pouvoir et puis on dit non, on va plutôt faire une étude. Et puis là, les libéraux sont de retour. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire à ce sujet-là.
Étienne, tu voulais peut-être poser une question?
Oui, je pense que je reviendrai au bac bleu, juste pour savoir ce qui est recyclé ces temps-ci, parce que moi, j'avais croisé plusieurs rumeurs, en fait, comme de quoi les sacs de plastique seraient peut-être recyclés, le plastique 4 et 6, qu'est-ce qu'il en est actuellement?
Oui, c'est tout nouveau, en fait, à la Ville de Québec. Maintenant, on peut mettre le plastique 4 ou 6. Ça, c'est le code que vous retrouvez sur tous les emballages plastiques. Alternativement, au lieu du code, vous allez pouvoir retrouver le sigle. Le plastique numéro 4, c'est du LDPE. Numéro 6, c'est du PS. En d'autres mots, le PS, c'est du polystyrène. Donc, c'est tout ce qui est soufflé, en fait, les gobelets...
à café.
Les gobelets à café, oui, merci. Les assiettes, souvent les assiettes jetables, c'est fait de polystyrène. De même que les contenants à bière, les gobelets rouges, ça, c'est pas du polystyrène soufflé, mais ça reste quand même du polystyrène. Donc, c'est juste de regarder le code ou le sigle en dessous des contenants. Le LDPE, c'est tous les sacs de plastique. Donc, les fameux sacs d'épicerie. Ça, c'est le plastique numéro 4.
Celui-là, il se recycle.
Il se recycle aussi.
Donc, on peut mettre les sacs d'épicerie en boule dans notre bac de recyclage.
Oui. Ce qu'il recommande, c'est de faire un seul sac avec tous nos sacs de plastique et puis de le nouer parce que ça va être tiré au tout début du tri. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, il y a plusieurs gens qui ne le savent pas. Le bac bleu, le contenu du bac bleu lors de la collecte sélective, c'est amené à un centre de tri. Il y en a un ici dans la région de la Capitale-Nationale où, par la suite, tout le contenu va être classé par catégorie de matière et puis vendu à des recycleurs. Donc, oui, le numéro 4 va être retiré lors du processus du tri au tout début. Et puis, c'est plus facile si c'est tout ensemble dans un seul sac. Et de même que le plastique numéro 6. Donc, si c'est trop souillé par la nourriture, d'habitude, ça va pas au recyclage. Si on parle des plateaux de polystyrène et des barquettes sur lesquelles on met des morceaux de viande, si c'est saturé de sang, je ne mettrai pas au recyclage, par exemple. Mais si c'est relativement propre...
Donc, ça s'en va où dans ce cas-là?
Ça va aller aux déchets.
Puis ça prend combien de temps à se décomposer du polystyrène?
Oui, ça, c'est une bonne question.
Tu peux-tu que ça prenne quelque chose comme 600 ans?
Dans un lieu d'enfouissement de nouvelle génération, comme on en a ici, où il y a très peu d'activité bactérienne ou très peu d'activité... Vu, bon, il n'y a pas de contact avec l'air, peu de contact avec la chaleur ou même le rayonnement UV. Essentiellement, ça ne se dégrade jamais.
Ah non, jamais?
Non. le tout premier morceau de plastique qui a été fait dans les années 40-50 est probablement encore sur Terre, dans un océan quelque part. Donc, ce que le plastique va faire, c'est que ça va se fragmenter en tout petits morceaux jusqu'à devenir presque invisible. Mais à un moment donné, c'est ça, ça reste du plastique quand même.
Puis ça devient des micro-particules qui se retrouvent dans les océans.
Oui,
puis,
oui.
Qui sont mangées, entre autres, par les petits organismes qui se nourrissent de zooplancton et tout ça, parce qu'ils confondent les... Bon, ils confondent les... Tu sais, je veux dire, c'est difficile de dissocier les particules de plastique de ce qui est organique, là.
Oui, ça c'est tout un sujet de recherche, et puis ça intéresse beaucoup de personnes. En effet, oui, l'impact écologique du plastique, surtout lorsqu'il est mal géré, donc lorsqu'il n'est pas confiné ou recyclé, ou lorsqu'il n'est pas pris en charge de manière adéquate, puis il se retrouve sur les ruisseaux ou emporté par le vent, bien, tout mène à la mer éventuellement, et puis ça cause un... Ça provoque le désastre écologique qu'on connaît, oui.
OK, bon. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de... Parce qu'il me semble que ça fait assez longtemps qu'on parle du recyclage comme une solution à nos problèmes environnementaux. Est-ce que vous... Quand les gens trient leur matière résiduelle, des fois, il y en a qui vont se dire, bon, mais c'est pas recyclable, mais je vais quand même le mettre dans le bac de recyclage. Mm-hmm. Comme ça, ils vont tellement être tannés d'en avoir qu'ils vont finir par le recycler. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de penser-là?
Oui, c'est Mais c'est pas bête parce que j'ai probablement déjà fait moi aussi par le passé avant de me renseigner un peu plus. Je dirais que c'est pas quelque chose à faire. Ça vaut pas la peine de mettre les matières non acceptées par la collecte sélective dans le bac bleu. Pourquoi? Bien, ça va compliquer le tri. Rendu au centre de tri, ça va être traité comme étant des contaminants. Donc, ça augmente les coûts. Et puis, on sait que l'industrie du recyclage au Québec, déjà, a des problèmes de rentabilité. Donc, on veut faciliter le processus le plus possible. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on prend nos contenants, si on a un contenant qui est fait, par exemple, je pensais à une boîte de Kleenex, c'est en carton avec un petit morceau de plastique. Mais ça va faciliter le tri si on prend le temps de départir le carton du plastique. Et ainsi de suite, si on a une bouteille avec un bouchon, bien, on enlève le bouchon. Même si c'est du plastique, souvent le bouchon est fait d'un plastique différent que la bouteille. Donc, on prend le temps de séparer ça. On lave, bien entendu, nos bouteilles et nos contenants. Donc ça, c'est toutes des petites actions qui vont faciliter le tri, qui vont aider à rentabiliser les opérations. Donc, pour revenir à la question, non, on mettait pas ce qui va pas dans le bac bleu. ça va rien faire. De plus, la responsabilité revient au producteur. C'est pas le centre de tri qui doit nécessairement prendre la décision. Ah bon, on va ouvrir, on va agrandir l'usine puis commencer à recycler ça. C'est plutôt le producteur qui doit se responsabiliser et puis produire ou mettre en marché des choses qui sont recyclables ou assez facilement recyclables. Puis, c'est pas non plus une question de volume. Des fois, le volume est là. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une grande quantité, disons, le centre de tri va accumuler une grande quantité de matière que les gens ont mis là en pensant, bon, ben à un moment donné, ils vont se réveiller puis ils vont pouvoir faire quelque chose avec ça. Mais des fois, le volume est là, mais les débouchés sont pas présents. Peut-être qu'on ne dispose pas de la technologie nécessaire pour les recycler ou peut-être que ce qui est offert à nous, c'est pas nécessairement écologique. Il faudrait les exporter en Asie ou il faudrait les brûler. Donc, c'est pas nécessairement ce qui est plus sensé écologiquement. Donc, en bref, non. Tenez-vous. D'ailleurs, les centres de tri et puis les bureaux municipaux distribuent un guide du tri.
Que vous avez amené, là, qu'on peut voir. Auditeurs ne veulent pas voir, mais nous, on peut voir ça.
Je le traîne toujours avec moi.
Le guide du tri qu'on peut se procurer où?
N'importe où. Moi, je l'ai pris au centre de tri quand je suis allé le visiter lors de la semaine québécoise pour la sensibilisation à la réduction des déchets. C'est gratuit. Et puis, je crois qu'ils l'ont aussi aux bureaux municipaux.
Aux éco-centres, à la ville, oui. Aux différents endroits.
Oui, en fait, c'est en ligne aussi, si vous voulez pas l'avoir à papier. C'est sur le site de la Ville de Québec. Puis, on met une espèce de barre diagonale. Ça s'appelle Guide du tri. Et puis, je suis sûr que vous allez le trouver assez facilement. Et puis, là-dedans, à peu près toutes les matières auxquelles vous pouvez penser sont listées. Et puis, ça va vous dire où les mettre.
Donc, pour en revenir à la campagne des Amis de la Terre sur le verre, dans le fond, ça va durer jusqu'à quand, votre campagne?
Il n'y a pas de date de fin. En fait, on veut que la campagne poursuive son cours jusqu'à ce qu'une décision se prenne au sujet de la consigne.
Okay.
Ça a débuté le 28 octobre, dans le cadre justement de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Et puis, ça va s'ajuster au jour le jour, au fur et à mesure que des actions vont être prises.
Voyez-vous un engouement populaire déjà, au fait, suite à cette campagne-là?
Je ne sais pas s'il y a un engouement populaire, mais je sais qu'il y a eu un engouement dans les médias.
Oui.
Une des raisons pour laquelle je suis ici, mais suite au point de presse qu'on a eu ici à Québec, on en a parlé dans Le Soleil, dans le Journal de Québec, à la radio, à la télé. Je crois que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et puis, je crois que une des raisons, un des facteurs sous-jacents, comme tu le disais, Marie-Christine, c'est que les gens savent pas trop comment aborder le recyclage. Des fois, c'est un domaine un petit peu...
Un peu compliqué, ésotérique même.
Ésotérique
pour
eux,
on se dit,
ouais.
À quoi ça sert, finalement?
Ouais,
puis en plus, ça fait... Tu sais, quand je dis, je répète encore, au risque de me répéter, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait au moins 20 ans qu'on parle de recyclage. Là, les gens, au début, ne voulaient pas faire le recyclage parce qu'ils se disaient qu'ils avaient d'autres choses à faire. Après ça, ils ont fini par se dire, non, j'ai une conscience écologique quand même, je vais faire mon recyclage. Mais là, comment le faire? Puis là, il y a ceux qui le font correctement, comme c'est écrit sur les guides de tri et qui suivent assidûment. Il y a ceux qui suivent à peu près. Puis il y a ceux qui suivent pas, ils suivent à leur instinct. Ils se disent, bon, ben, ça doit se recycler. T'sais, puis ils mettent ça dans le bac.
Ouais, donc, ça, c'est pire.
Puis finalement, ça donne que notre gestion des déchets est approximative. Dans le fond, on a encore du progrès à faire. Là.
Oui, et puis il y a beaucoup d'idées préconçues et puis de mythes par rapport au recyclage. Bon, on a tous entendu l'idée selon laquelle tout ce qui est dans le bac bleu se retrouve à la même place que les déchets. Ce qui est faux. Donc, il faut continuer à faire la sensibilisation. Il faut que les gens... se responsabilise un petit peu en tant que producteur. Premièrement, si on veut atteindre nos objectifs de réduction des déchets, il faut que les gens commencent à consommer en fonction de la fin de vie du produit qu'ils vont acheter. Donc, pensez-y, est-ce que c'est quelque chose qui est recyclable? Est-ce que c'est quelque chose qui est jetable? Ou même, est-ce que c'est un type d'emballage dont vous avez absolument besoin? Ça, c'est la première partie du processus. Puis par la suite, pour maximiser les opérations de recyclage, il faut savoir comment classifier nos choses, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le bac bleu, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le bac bleu aussi.
Bon, mais sur ceci, je pense qu'on va arrêter ça là, même si c'était très intéressant. Est-ce qu'il y aura moyen de suivre votre campagne sur la page Facebook, mais est-ce que sur le site des Amis de la Terre, il y a une pétition ou quelque chose à contribuer?
Il n'y a pas de pétition pour le moment. Ce qu'on demande, c'est ça. Allez sur la page Facebook, vous pouvez voir en détail l'opération. Et puis, si vous voulez vous impliquer un peu plus fortement et que vous buvez du vin, vais ramener vos bouteilles vides à la SAQ pour histoire de faire de la pression. Vous me faites penser, oui, il y a une pétition qui va être lancée bientôt, appuyée par une des députées à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, vous allez trouver toute l'information sur la page Facebook.
Excellent. Contribuer. Merci beaucoup, Colin Jacob. Oui, en cours. Et on vous souhaite une bonne campagne de Comité Zéro Déchet Opération Vert-Vert.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été là.
C'est plutôt une race psychologique qu'un produit social.
Je crois, oui.
89.1ckrl.qc.ca.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Le 8 novembre, Tempête et Passion présente l'Opéra Fantastique. Une occasion à ne pas manquer d'entendre de talentueux artistes de la relève lyrique de Québec. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus.
Jusqu'au 18 novembre, c'est le temps de voter pour le Gala 2014 de CKRL dans la catégorie « Choix du public ». Pour encourager vos émissions favorites, rendez-vous sur ckrl.qc.ca et faites votre choix parmi les émissions éligibles. Un seul vote par jour sera comptabilisé. Faites-vous entendre et courez la chance de gagner un certificat cadeau de 25$ au triplex suspendu. Les lauréats seront connus le 21 novembre prochain.
Mettez-vous de l'argent de côté pour la retraite?
Ah, j'essaye, mais...
c'est pas toujours facile.
Paye ci, paye ça. Au bout du compte, moi, j'ai tout dépensé.
Sauf que...
Bonne nouvelle!
Le Québec a mis en place pour tous les travailleurs...
un nouveau régime d'épargne retraite.
Ça s'appelle le régime volontaire d'épargne retraite.
Comme ça va être plus facile de mettre de l'argent de côté.
Employeur, pour offrir une meilleure retraite à vos employés, informez-vous à rver.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec.
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez...
Antitube, le Dominion de 7 et Un chemin avec Edmond Baudouin. Birdman, Gemma Bovary, Geronimo, Henri Henri, l'Opéra National de Paris présente Le Barbier de Séville, RIDM à Québec, Stop Making Sense, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation,
Geronimo et Gemma Bovary.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1 char soviétique entre dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près?
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on voit ce qu'on vous fait parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.QC.CA.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà.
Je suis en train de tirer sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Bon, je n'ai pu résister à l'inspiration que la nuit m'a soufflée. Je rentre me coucher, coucher avec toi. La pleine lune apparaît au-dessus de toi. Je sens se réveiller le loup qui est en moi. Tellement bon, 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 bonsoir. J'ai pris le TGV de minuit moins le quart. Je rentre me coucher, coucher avec toi. La pleine lune apparaît au-dessus de toi. Je sens se réveiller le loup qui est en moi. Oh. Chanson et des promesses, et puis des roses, une clope d'Amsterdam, des chocolats de Bruxelles, un peu de vague à l'âme, du Mont-Saint-Michel. Je rentre me coucher,
coucher avec moi.
La pleine lune apparaît
au-dessus de toi. Je sens se réveiller.
Donc, vous venez d'entendre La rue qu'est à nous et on est en présence d'Aline Tremblay qui a cofondé en 2010 avec Alain Deneau le Réseau pour la justice fiscale du Québec. C'est un organisme de recherche qui est associé au réseau international Tax Justice Network. Et jusqu'à ce jour, le Réseau pour la justice fiscale, d'ailleurs, Attaque Québec est membre de ce réseau, s'est concentré sur la compréhension des paradis fiscaux comme étant un phénomène central d'injustice fiscale qui met en péril le financement des services publics. Et depuis, donc, Aline Tremblay contribue avec Alain Deneau à différentes recherches, dont une étude qui s'appelle « L'aveuglement volontaire du ministère québécois des Finances concernant l'évitement et l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux ». Ils ont aussi écrit ensemble un article publié dans l'État du Québec, qui est publié chaque année et qui parle des faits saillants du Québec de l'année. L'article s'appelle « Sur la tentation pour le Québec de devenir un paradis fiscal ». Et voilà, ils ont écrit d'autres écrits sur les filières canadiennes des paradis fiscaux. Et également, ils ont écrit un mémoire à la commission d'examen de la fiscalité qui a fait parler d'elle quand même cet été beaucoup. Le gouvernement du Québec a enclenché une consultation cet été. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont contesté cette consultation-là, mais je vais laisser Aline nous en parler. Bonjour, Aline.
Bonjour.
Ça va bien? La voix? Oui.
Sa voix.
Sa voix?
À peu près.
Sa voix à peu près. Donc, on va pouvoir... dans le fond, je vais te laisser la parole. Je sais que cet été, il y a eu plusieurs critiques qui ont été faites sur cette commission d'examen-là. Peut-être que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel ça a été amené, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour soumettre un mémoire. Vous avez soumis un mémoire aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette commission-là, vous?
Marie-Christine, est-ce que je pourrais me permettre juste de rétablir dans les informations que tu as données sur moi,
oui. Que
le livre « Paradis fiscaux, la filière canadienne », j'étais une des collaboratrices, mais c'est une réalisation d'une douzaine
de personnes,
de collaborateurs, avec Alain, évidemment, qui l'aurait dit.
C'est surtout Alain Deneau, le spécialiste de la question. Toi, tu l'aides, mais disons que tu as beaucoup contribué, donc tu es au fait de l'actualité concernant les paradis fiscaux.
Oui, il y a 4 ans et demi, je ne connaissais pas grand-chose. Depuis, j'estime avoir pratiquement un bac sur la question des paradis fiscaux, et je pense qu'Alain a besoin d'aide aussi pour qu'on diffuse de plus en plus cette problématique qui gruge les fonds publics d'une manière particulière au Québec.
Énorme, en fait. Oui, selon ce que j'ai lu votre mémoire, là, mais d'abord, la commission d'examen sur les paradis fiscaux. Pas sur les paradis fiscaux, sur la fiscalité plutôt.
Oui, la commission d'examen sur la fiscalité s'est mise sur pied en juin dernier. Et avec la commission permanente d'évaluation des programmes, on peut dire que ce sont les deux grands moyens que le gouvernement libéral s'est donné pour amorcer ce qu'il appelait pendant la période électorale l'importance de s'occuper de l'économie. Et après l'élection, alors il a rapidement parlé de déficit structurel, de peur, tenter de créer la peur. Moi, j'estime qu'il est arrivé à créer une peur concernant les finances publiques. J'expliquerai, je donnerai tout à l'heure des chiffres qui permettent de nuancer là, cette affirmation que je trouve sans démonstration. Alors, il a créé ces deux commissions-là, mais avec des mandats qui... Moi, j'ai suivi la commission sur la fiscalité depuis sa mise sur pied, parce que je me disais, quelle belle occasion de s'impliquer dans la vie démocratique puis d'apporter une préoccupation qu'on a depuis si longtemps. Alors, j'étais tout feu, tout flamme pour suivre cette commission. Et je dois reconnaître que rapidement, j'ai vu de quel type de commission il s'agissait. Et là, rendu en novembre, je suis... Bon, évidemment, comme tout le monde, je vais attendre le résultat. Le rapport qui sera soumis à la fin décembre. Mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur la manière que cette commission-là a fonctionné en partant de sa formation, qui fait partie, quels sont les commissaires. Alors, on a regroupé strictement des gens du secteur financier. Il n'y a pas de sociologue sur cette... on n'a pas fait place à une préoccupation qui pourrait être, quand on se questionne sur la fiscalité, ben c'est pas juste une question comptable. Il y a des questions sociales à se poser avant de décider qu'on va dans une direction ou dans une autre. Ça, je le déplore. Et puis après, j'ai attendu un bon moment les documents de consultation qui devaient être déposés au mois d'août, parce que quand on veut préparer un mémoire, habituellement on le fait à partir de d'une réflexion de la commission. J'ai participé à d'autres exercices comme ceux-là au Québec. Et là, finalement, les documents sont sortis, je crois, ont été complets le 26. On a reçu les documents le 26 septembre. Et le 10, il fallait que les mémoires soient remis.
Le 10 octobre.
Le 10 octobre.
Donc, une quinzaine de jours après.
Oui, exact. Alors, ce qui nous donnait, grosso modo, à peu près un peu moins de 15 jours, surtout quand on veut se coordonner avec d'autres, qu'on n'est pas seul rédacteur, mais qu'on veut le faire un rapport qui implique d'autres organisations, ce qui est le cas dans par rapport aux mémoires déposées par le réseau Justice. En fait, il a été déposé par Échec aux paradis fiscaux. Nous, on l'a écrit, on l'a remis à Échec aux paradis fiscaux et il a été déposé auprès de la commission par le groupe Échec aux paradis fiscaux, qui est un regroupement d'organismes, de 13 organismes quand même importants qui réfléchissent sur la question des paradis fiscaux depuis, je pense, près de 3 ans. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais le mémoire n'a pas été retenu. Et ce qui me déçoit, c'est qu'on disait dans l'ensemble des mémoires, on regardera s'il y a des sujets spécifiques qui pourraient être une compréhension supplémentaire au problème. Et dans leurs documents, eux, ils mettaient très, très, très peu. Ils mettaient vraiment très peu. Ils ont mis 2 petits paragraphes absolument pas éclairants sur le problème des paradis fiscaux.
Est-ce que vous pouvez... Parce que en fait, on a peu de temps pour parler d'un sujet qui est complexe, qui est vaste. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander de nous présenter rapidement les points qu'il y avait, les points saillants dans votre mémoire?
Tout à fait. Alors... dans le mémoire, et je remercie qu'on me donne l'occasion de rendre public ce mémoire-là, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire auprès de la commission. En fait, quand on regarde la problématique des paradis fiscaux, puis qu'on veut l'appliquer concrètement à ce qui est en train de se passer au Québec actuellement, OK? Puis on serait dans un autre état, puis on ferait la même chose. Il y a 3 coûts qui sont rattachés aux paradis fiscaux, 3 coûts pour les États, et qui les privent de revenus énormes, alors qu'on n'arrête pas de brandir qu'il faut réduire les dépenses, il faut couper, puis à une vitesse fulgurante. Donc, il y a d'abord le coût des fuites fiscales. Le coût des fiscales, eh bien, ça se fait par le biais de l'évitement et de l'évasion fiscale. Rapidement, évitement, ça veut dire qu'on dit que c'est légal, mais très souvent, ça, c'est agressif et c'est un contournement de l'esprit de la loi. Alors que l'évasion fiscale, carrément, on contrevient à la loi. Maintenant, pour vous donner quelques chiffres de l'importance de ces coûts-là, il faut mentionner que depuis 1990, les paradis fiscaux, la part des actifs qui a été transférée dans les paradis fiscaux
par les multinationales canadiennes
est de 1500%. Alors, on est passé de 11 milliards de dollars à 170 milliards de dollars actuellement. Le dernier chiffre que nous avons. Maintenant, il faut dire que ces chiffres-là sont susceptibles d'être interrogés parce que on ne peut que se fier que sur Statistique Canada. Et le problème de l'évaluation de ces fuites fiscales-là, c'est que les organismes de surveillance sont incapables d'avoir des informations des banques dans les paradis fiscaux en raison du secret bancaire. Okay. Donc, estimons que c'est conservateur et à la seule Barbade, les Canadiens ont investi en 2012 près de 60 milliards de dollars. Ce qui fait de cette petite île-là vraiment le troisième pays où les multinationales canadiennes investissent le plus. Alors, on va rapidement se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces milliards aux Bermudes. Alors entendons-nous que c'est un transfert de capitaux et qu'il s'agit pas de développer l'économie réelle des Bermudes, hein? Bon, alors dans cette question des paradis fiscaux, faut vraiment faire distinction entre l'économie réelle et l'économie financière. Alors, avec la question des paradis fiscaux, on est grosso modo dans des questions d'économie financière. Maintenant,
ensuite, vous avez donc je vais vous aider à parler des trois.
Oui, pour
les trois.
Me surveiller pour pas que je parle trop longtemps.
Oui, parce que là, il nous reste cinq minutes. Les trois coûts dans le fond des paradis fiscaux. Les premiers, on disait que c'était
les
fuites fiscales. Les deuxièmes, c'est le dumping fiscal. Le troisième, c'est le service de la dette.
Voilà. Alors, le dumping fiscal, pour comprendre rapidement, on entre dans la question de la concurrence entre les États sur leur taux d'imposition. OK? Alors, compte tenu de l'existence des paradis fiscaux avec un taux très bas d'imposition, les États se disent, ben si on baisse pas leur taux d'imposition, ils vont se délocaliser ailleurs. Mais moi, ce que je dis souvent par rapport à cet argument-là, c'est que de toute manière, le taux d'imposition est rendu si bas au Canada, par exemple, pour les grandes entreprises, puis au Québec aussi. Ça va toujours vers le bas. On est toujours en train d'aller vers le bas.
Le dumping,
c'est que si on n'a pas un taux d'imposition qui est bas, on va craindre que les entreprises se délocalisent, partent ailleurs. Et bon, l'argument qu'on entend souvent, il faut qu'ils suivent le mouvement, que les entreprises suivent le mouvement, que les États baissent leur taux d'imposition, sinon les grandes entreprises vont dire, bon, si vous nous accommodez pas, on va aller ailleurs, c'est tout.
Puis ça, okay. Ça a été le taux d'imposition, il a continué à baisser depuis les 12 dernières années à peu près. On a réduit les impôts sur les entreprises minières, entre autres. Là. Il y a même des cadeaux qui sont faits à ces entreprises-là en bout de ligne parce qu'elles ne payent pas d'impôts.
Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ça, un exemple bien concret, par exemple, de baisse de décision québécoise prise avec la peur de perdre des entreprises ou pour d'autres raisons qu'on pourrait imaginer, pour simplement les accommoder, c'est que le ministre des Finances, Michel Audet, a réduit les taxes sur les revenus de placement des entreprises de manière importante en 2011. Alors, la taxe sur le capital s'est trouvée à peu près complètement abolie. Entendons-nous, 50% seulement, une imposition seulement sur 50% des revenus. Ce qui nous amène à des choses aussi aberrantes que celles-ci. Je vous donne quelques exemples. En termes le premier chiffre, c'est sur les bénéfices nets, OK? Bénéfices avant impôt. Alors, une compagnie comme Rogers, avec 6,192 milliards de profits nets, se retrouve avec un 5,10%. Je m'en vais en croissant. Enbridge, 4,775 milliards, 5,30%. De taux d'imposition. Québécois, 1,822 milliards, 3,80%. Et je vais finir avec quelque chose d'assez bizarre que moi, je pensais pas qu'on pouvait arriver jusque-là. On peut arriver avec des moins. Alors, on a TransCanada Corporation, qui, avec 5,914 milliards, je m'excuse, c'est encore positif, mais à 1,70. Le Canadien Pacifique, c'est négatif, avec moins, avec moins 4%.
On parle du taux d'imposition, là?
Oui, on parle du taux effectif d'imposition.
Il est à moins combien?
Moins 4,70%. Okay.
Donc, on va devoir conclure, puisqu'on est déjà à la fin du temps qui nous était alloué. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les coûts sont énormes.
C'est énorme.
Et la population québécoise continue d'avoir le fardeau, finalement, de payer les services publics. notamment la santé, l'éducation et tout ça, sans que ces entreprises-là contribuent, alors que finalement, elles tirent une grande richesse de l'exploitation qu'elles font. Par exemple, je pense aux entreprises minières, mais là, on nommait aussi des entreprises d'énergie et autres. Finalement, les recommandations, vous en avez fait plusieurs, on n'aura pas le temps de les aborder. C'était le service de la dette. Vous n'aurez pas le temps de nous expliquer non plus, malheureusement, mais on va pouvoir mettre le mémoire en ligne. Finalement, s'il y avait une conclusion à faire à cette courte conversation qu'on a eue, qu'est-ce que ce serait?
Alors, le problème est énorme. Il y a des gens au Québec qui s'en occupent. On en parle de plus en plus. Il faut qu'on en parle de plus en plus, même si on n'est pas ce qu'on appelle des experts. Et on a confiance d'arriver à ce que les gouvernements prennent au sérieux cette question.
Aline Tremblay, merci beaucoup.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Bonjour. Voici la chronique événementielle. En fait, tout ça est disponible sur le mediareseauforum.org. Aujourd'hui même, on a la journée Nord-Sud. Vous devinez que c'est une journée de solidarité internationale. On a essentiellement plusieurs kiosques d'organismes, des organismes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Donc, si ça vous intéresse, la solidarité internationale, c'est au Musée de la civilisation jusqu'à 16h aujourd'hui. C'est aussi le rendez-vous bio à l'Université Laval. Évidemment, rendez-vous bio, ça veut dire donc les produits biologiques et tous les équivalents. C'est ce samedi et ce dimanche au pavillon Abitibi Price. Ensuite, ce dimanche, demain, il y a une manifestation pour la sauvegarde de la politique familiale. Donc, c'est-à-dire que les services estiment qu'il y a une menace aux services, aux divers services des CPE, des services de la petite enfance, mais aussi en milieu familial. Donc, ça risque d'être une assez grosse manifestation de beaucoup de monde. Si le sujet vous intéresse, c'est à 10h au Parc de l'Amérique française. Ça, c'est en fait à côté du Grand Théâtre. Mais je ne peux pas tout vous nommer, mais vous allez voir, c'est assez passionnant. Il y a quand même les Journées québécoises de la solidarité internationale, à peu près une activité par jour, du 6 au 16 novembre. Il y a les Semaines de l'économie sociale. Donc, on a publié environ 25 événements juste à Québec sur le mediareseauforum.org. Il y en a aussi même 7 sur la rive sud, donc à Lévis, Etchemin, Saint-Georges-de-Beauce, Bellechasse, ainsi de suite. Donc, économie sociale, c'est évidemment des services qui sont au service des besoins des gens, donc généralement des services non lucratifs, mais ça inclut aussi différentes coopératives classiques. Ensuite, CREC Bitume, un organisme écologique, en fait un collectif écologique de Limoilou, que vous connaissez peut-être, va tenir 7 activités, surtout en novembre, sous la catégorie « Faites-le vous-même ». Et « Faites-le vous-même », donc, c'est un peu dans l'esprit de « On peut produire des cadeaux de Noël écologiques et par nous-mêmes ». Vous pouvez voir tout ça sur le mediareseauforum.org. Mais je vous nomme longtemps à l'avance que le 29 novembre, il y a une grande manifestation contre l'austérité. En fait, il y a des autobus de partout à travers le Québec, ou presque. Il y a une manifestation à Montréal, mais une grosse à Québec aussi, avec beaucoup de gens du Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs, qui vont venir nous rejoindre. Et ça, c'est 29 novembre à 13h, évidemment, devant l'Assemblée nationale. En conclusion, évidemment, je ne peux pas vous nommer la vingtaine d'événements qui a été publié pour la semaine prochaine. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le mediareseauforum.org.
Merci beaucoup, Michael. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire cette semaine du côté des activités engagées. C'est un rendez-vous pour les intéressés. Et on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc, je vais remercier nos invités qui s'appellent Monsieur Jacob des Amis de la Terre, qui est venu nous parler de recyclage, Aline Tremblay du Réseau pour la justice fiscale de Québec. Et je vais remercier aussi toute l'équipe qui rend cette émission possible, à la production Étienne Blondeau. qui nous a aidé à réaliser l'émission, mais qui était aussi avec moi à l'animation aujourd'hui. Mais ça n'a pas beaucoup parlé. Désolée, j'ai pris toute la place. Michael Lessard qui est à la technique et moi qui a surtout animé cette semaine. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, visitez notre site legrainsableqc.wordpress.com où vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook. On va mettre en ligne aussi des suggestions de lecture sur les paradis fiscaux, dont le mémoire dont Aline Tremblay parlait, mais aussi un livre qui a été écrit par Alain Deneau, publié aux éditions Éco-Société. On va aussi parler, vous mettre des liens sur le recyclage. Donc, pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, visitez notre site, notre page Facebook et demeurez à l'antenne pour écouter les Gays contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful settling. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, man or woman reveal, you can't expect any kind of mercy on the battlefield. You say you look out for the feet of clay, then someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, man or woman reveal, do you show any kind of mercy on the battlefield?
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
89.1.
Inni, maman.
Ludo, la lu. Lily, le lit.
Oh, merci.
Lucas, le lira.
Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org.
Dans le cadre du Movember, la Ninkasie du Faubourg est fière de vous inviter à l'événement « Les moustachus envahissent la Ninkasie ». Organisé par MR Événements, le 27 novembre dès 18h, les moustachus de tout genre envahiront la place le temps d'une dégustation de bière et saveurs. Pour l'occasion, 5 des meilleurs bouchers choisis par le public seront accordés avec les bières et boissons disponibles sur les pompes de la Ninkasie. La Ninkasie et MR Événements seront fiers de verser les profits de la soirée à la cause Movember.
Et mesdames, vous êtes également les bienvenus.
Billets disponibles sur lepointdevente.com.
Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook.
Pourquoi choisir
Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas.
Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez
Matelas Confort,
1605 boulevard Henri Bourassa.
Alors, est-ce que monsieur a choisi?
Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît.
Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes...
Ah non, excusez.
La bisque de homard, la poutine au foie gras...
Excusez.
La salade d'artichaut...
Mais...
Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout?
Ouais.
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
CKRL